Bonsoir, trois termes au menu de la tribune de ce soir, à savoir clôture hier jeudi à Kinshasa de la réunion de gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales sur la mise en place effective de la décentralisation. Dans notre deuxième terme, nous parlerons de la tripartite RDC-Ouganda-République centrafricaine. Une réunion des chefs d'état-major généraux des forces armées de ces trois pays a eu lieu hier jeudi à Kisangani en province orientale. But de cette tripartite, se pencher sur la situation sécuritaire dans la partie nord-est du Congo, en proie aux exactions des rebelles ougandais de la LRA. Et enfin, nous terminerons notre tribune par cette crise au sein du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Alors, comme d'habitude, trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Claudine Bombo, elle est journaliste et responsable du desk Société au quotidien L'Observateur, Gustave Kalenga, éditeur du journal La Flamme du Congo, c'est un journal qui paraît à Kinshasa, et Jeff Mingam, lui, est éditeur du journal Le Fédéral, paraissant à Lubumbashi, qui intervient à partir du Katanga. Avant d'entrer dans le vif du débat de ce soir, je vous propose de suivre la revue de presse avec Alain Roux pour voir comment les journaux quinois ont abordé les trois thèmes retenus pour ce soir.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette tribune de presse, commençons par le lancement de la campagne de vulgarisation du processus de décentralisation qui a été opéré par le vice-premier ministre en charge de la défense et sécurité, Mutombo Bakafasenda, à l'issue de l'atelier sur la décentralisation écrit La tempête des tropiques. Pour le ministre, les débats tenus deux jours durant au cours de ces assises ont fait paraître l'engouement et l'espoir suscité parmi les Congolais pour la décentralisation. D'un sujet à l'autre, l'Observateur annonce la question de savoir comment mettre fin au phénomène LRA était au centre d'un sommet tripartite qui a réuni les chefs d'état-major de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et de la République centrafricaine à Kisangani en province orientale. À en croire le journal, ce sommet constitue la phase préparatoire d'une nouvelle campagne militaire contre les rebelles après celle qui avait été lancée en décembre dernier par les troupes de la RDC et de l'Ouganda. Pour le même sujet, la référence plus, elle met en avant-plan les phénomènes LRA, Mbororo et FDLR, et le journal le titrait comme suite « La RDC, l'Ouganda et la RCA carte sur la table ». Le journal rappelle que les combattants de la LRA-FDLR sont ceux-là qui troublent la paix à l'est de la RDC et leur capacité de nuisance est tellement grande que parfois la RDC est prise au dépourvu. Malgré des moyens conséquents de son budget pour tenter de ramener la paix, ces groupes persistent jusqu'aujourd'hui. Pour terminer cette revue de presse, le palmarès quant à lui parle de la crise qui sévit au sein du RCD. Le journal parle de la conférence qu'a tenue mardi dernier à Zarias Roubirois à Kinshasa. Il a invité les 15 autres fondateurs du parti qui l'ont désavoué le week-end dernier à revenir à la raison. Selon le journal, réagissant à la demande d'Azarias Roubirois à leur endroit, Adolphe Onosumba, l'un des fondateurs précités, dit que c'est plutôt à Roubirois de revenir à la raison.
Merci Alain Roux pour cette revue des presses. Claudine Bombo, vous êtes journaliste et responsable du desk Société au journal L'Observatoire. Un petit commentaire par rapport à cette revue que nous venons dessus, un petit commentaire.
Merci beaucoup. Je pense qu'ils ont ramassé en gros les informations dont nous avons besoin et surtout pour ce qui se passe à l'Est. Je pense que les médias doivent vraiment s'apesantir là-dessus. Je pense qu'il y a un sujet, même s'il n'est pas national, c'est la mort du président Gabonais.
Justement, on va en parler tout de
suite. La presse devrait bien en faire.
Gustave Kalenga, éditeur du journal La Flamme du Congo, un petit commentaire aussi par rapport à cette revue.
En fait, je commence par la décentralisation. La question que je me pose, c'est celle de savoir s'il y a opportunité ou non opportunité de cette décentralisation. En ce qui concerne la question de LRA, c'est aussi celle de ça. La question que je me pose, c'est de savoir pourquoi notre gouvernement est jusque-là incapable de mettre un terme à cette situation catastrophique à l'Est. Et en fin de compte, c'est l'affaire Roubirois. Ça relance un débat sur l'instabilité dans nos partis politiques.
Merci Gustave. Jeff Mingam, vous intervenez à partir de Lubumbashi, donc dans la province du Katanga. Vous êtes éditeur du journal Le Fédéral. C'est quoi l'actualité aujourd'hui au Katanga?
Ah oui, en fait, l'actualité au Katanga, c'est plutôt plus la décentralisation qui est une préoccupation des Katangais. Vous savez que par essence, les Katangais sont des fédéralistes. La décentralisation est vraiment réclamée au Katanga. et avec tout son contour, notamment la retenue des 40% à la base, ça c'est ce qui préoccupe les Katangais. Mais le reste, là, bon, l'histoire du RC2, le RC2 lui-même est mal implanté au Katanga, donc vous voyez que ça ne fait même pas la une du Katanga. Peut-être encore ce qui intéresse les Katangais, c'est la situation sécuritaire à Kisangani. Juste par solidarité, les Katangais ont estimé qu'il faudrait que le gouvernement mette de moyens et fasse tout pour que cette partie de la République revienne et que la paix revienne dans cette partie. Voilà un peu l'essentiel.
Merci Jeff Mingab. Claudine, vous l'avez relevé tout à l'heure, il y a une autre actualité, c'est cette triste nouvelle qui est la mort de Ella Djomar Bongo, président gabonais, dont la députée mortel est arrivé hier à Libreville. Un mot par rapport à la perte de ce grand homme quand même de l'Afrique.
Oui, c'est un grand homme d'Afrique et on dit que c'est le dernier qui nous restait pour l'Afrique, du moins pour la génération de 1950. Et je pense que c'est une grande disparition, mais il y a toujours un problème. Le président africain ne prépare jamais la relève. Et nous pensons que le Gabon ne va pas subir les mêmes sorts que les autres pays qui sont tombés dans la guerre après le départ d'un dictateur.
Gustave Kalinga.
En fait, c'est un grand homme qui est parti. C'est la France-Afrique qui est presque partie. Et surtout pour une certaine opinion qui dit que c'est le ministre français des affaires africaines qui est parti. Vous savez, Bongo a vu défiler plus de 6 présidents
français.
Le ministre Bongo,
le président Bongo,
je m'excuse beaucoup, il a vu défiler 6 présidents de français devant lui. Il a beaucoup milité pour les intérêts français, que ce soit dans son pays, que ce soit à l'Afrique noire. La leçon à tirer de cette mort, c'est la manière dont les Gabonais ont géré cette crise et on a respecté la Constitution. Les Gabonais viennent de nous prouver et poser à la face du monde qu'il fallait respecter la Constitution. Ils ont annoncé la mort du chef de l'État après qu'ils aient pris toutes les dispositions pour assurer la succession. C'est-à-dire, c'est une dame qui a prêté serment, c'est cette dame qui a reçu le corps et dans 45 jours, cette dame ne sera pas candidate. Et ce sont les jours. Alors, c'est ça la grande leçon que je tire de cette mort.
Merci, Gustave. Jeff, vous avez un mot à dire par rapport à cette perte, quand même, que l'Afrique connaît.
Oui, effectivement, Bongo représentait pratiquement le dernier des géants d'Afrique qui vient de partir. Pour abonder dans le même sens que Claudine et Kalinga aussi. Nous relevons ici que non seulement il a défilé les présidents français, mais aussi c'était un enfant chéri de la France. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire profiter au Gabon de ses 40 ans de règne et de ses richesses aussi. Il n'a pas pu faire profiter au Gabon dans le cadre de la prospérité. Mais on a vu plutôt vers la fin de sa vie qu'il a été lui-même plus poursuivi pour problèmes d'enrichissement avec tout ce qui détient comme immeuble en France et ailleurs. Mais ce qui est important, comme disait mon confrère, à retenir, c'est que on pensait que ça sera du père au fils. Mais heureusement, quand même, les Gabonais, avec le calme qui règne, il y a eu quand même respect de la Constitution, bien que c'est la femme, mais on l'a quand même respecté parce que, bien que la femme, hein, les prérogatives revenaient à cette femme constitutionnellement. Moi, je pense que c'est une grande leçon. C'est mieux que les Africains restent toujours dans ces cadres-là, qui restent des textes, et que ce serait une très bonne chose. Vraiment, ce sont des choses qu'il faut encourager et féliciter. Maintenant, attendons voir les 45 jours pour l'organisation des élections. Voilà.
Merci de clôturer jeudi à Kinshasa de la réunion des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales pour la mise en place effective de la décentralisation. C'est notre premier thème. Cet atelier de validation du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation en RDC a eu pour objectif de produire en quelque sorte une feuille de route de cette décentralisation, de la campagne de sensibilisation à la base, à l'élection des responsables des entités décentralisées. Un processus qui devra prendre 5 ans pour la mise en place de tous les fondements et 5 autres années pour l'évaluation. Mais une question divise encore à ce stade les gouverneurs des provinces et autres présidents des assemblées provinciales présents à cet atelier. Cela retient à la source des 40% des recettes des provinces. Le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, par exemple, souhaite qu'elle soit immédiate. Gabriel Toumba, comme ça l'a dit hier au micro de l'émission Dialogue entre Congolais, on l'écoute.
Nous avons mis l'accent sur un point important, c'est le fait que la constitution de notre pays, qui prévoit la récupération à la source de 40% des recettes nationales, n'a pas donné des délais. C'est une façon de décourager notre population. Je n'ai pas porté les gants pour dire aux uns et aux autres que, enfin, mon Dieu, allons-y droit d'abord à l'essentiel. Les textes de loi, les procédures, les procédés juridiques qu'on peut imaginer passent d'abord par l'application immédiate de la disposition constitutionnelle sur la récupération à la source des 40% des recettes nationales. Les recettes sont en train d'être produites et n'attendent pas tous ces longs processus auxquels on fait allusion.
Du côté du ministère de la décentralisation et aménagement du territoire, son conseil juridique et administratif réfléchit autrement. Gilbert Katingé pense que la retenue à la source des 40% n'est pas possible dans l'état actuel des choses. On l'écoute encore une fois au cours de l'émission Dialogue entre Congolais.
Nous étions dans la même commission et même en plénière, on a dû constater que les gouverneurs de province eux-mêmes ne mettent pas sur la même longueur d'onde sur la question de 40%. Parce que le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui le Katanga exige la retenue à la source immédiate, c'est parce qu'elle sait qu'elle a l'avantage d'avoir une frontière nationale. Tous les produits qui sont destinés au Kasaï, par exemple, qui entrent par le Katanga, la douane, les prix de douane sont perçus au Katanga. C'est donc considéré comme une recette du Katanga alors que les produits sont destinés à être consommés au Kasaï. Bon, le Kasaï va connaître le manque à gagner parce que on dira que le Kasaï n'a pas produit. On va lui rétrocéder quoi?
Pensez-vous que dans l'état actuel des choses, sincèrement, la retenue de 40% à la source est-elle possible?
Dans l'état actuel, la retenue à la source n'est pas possible parce qu'il y a des questions. Il faut d'abord identifier la source.
Voilà, Gustave Kalinga, éditeur du journal La Flamme du Congo. Des divergences de vues. Comment, à votre avis, peut-on concilier ces différents points de vue?
En fait, c'est difficile de concilier ces points de vue. D'autant plus que la décentralisation elle-même, comme politique mise en place, moi j'estime, ça c'est mon point de vue, elle n'est pas opportune aujourd'hui.
Et pourquoi?
Elle n'est pas opportune au regard des agendas cachés de la classe politique, de politiciens congolais.
Et qu'est-ce que vous entendez par agenda caché?
Les agendas cachés, tu as vu toi-même les deux reportages qui viennent de nous être donnés. Il y a deux thèmes. Il y a ceux qui se battent pour les 40%. Les 40%, le Katanga veut aller vite parce qu'il y a 40% qu'on doit rétrocéder. Mais le politicien, quand vous leur posez la question, ils vous disent tout le monde veut être gouverneur de la prochaine province qui était sous-région, qui était district à l'époque. Donc, quelque part, vous sentez que les gens n'y vont pas parce qu'il y a une volonté populaire, une volonté politique de rapprocher les administrés au pouvoir central. Mais les gens y vont parce qu'il y a un intérêt pécunier, les 40%, il y a un intérêt de se repositionner. Mais vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, la décentralisation, telle qu'elle est définie dans sa formule primitive, c'est un mode d'organisation administrative qui consiste à reconnaître la personnalité juridique à des communautés d'intérêt, comme région, comme département, comme commune. On a des activités de service public, puis on leur confie un pouvoir décisionnel en certaines matières. Mais la décentralisation aussi constitue une réponse possible à la question de la répartition des fonctions administratives entre l'État et les autres collectivités publiques. Mais cette décentralisation suppose toujours trois conditions. La première, isoler les besoins d'un caractère local. Aujourd'hui, il faut construire un pont sur une rivière. Je me mets là-bas. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les administrateurs du territoire, dans leur contrée, aujourd'hui, qui peut construire une petite route même de 1 km?
qui peut construire même un centre de santé? Les examens de temps. Je t'informe qu'il y a des écoles. Moi, je viens de l'intérieur. Il y a des écoles. Les enfants ont terminé les examens de temps il y a 4 ans. Ils n'ont pas de résultats des examens de temps. Et il y a des autorités locales qui doivent être censées de donner ne plus que les résultats à ces écoles. Et quand vous demandez la décentralisation aujourd'hui, c'est pour faire quoi? C'est pour un repositionnement. C'est pour gérer les 40% qu'on veut leur donner. La décentralisation, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Il faut d'abord préparer.
Alors, Claudine Gombo, vous partagez le même point de vue que Gustave, qui dit qu'il faut prendre le temps pour préparer cette décentralisation.
Je suis heureuse qu'on partage au moins un même point de vue pour une fois avec Gustave. Là, je suis d'accord avec... Personne n'est contre la décentralisation. On n'est pas contre. Mais nous pensons que ce n'est pas encore le moment. Comme on l'avait dit la fois passée, la RDC n'a pas un problème de texte. Mais là, nous sortons de la guerre et c'est tout le monde qui veut d'abord se repositionner. Et on s'est dit, avec 11 provinces que nous avons aujourd'hui, nous n'arrivons pas d'abord à mieux les gérer et à mieux les maîtriser. A fortiori, quand on en aura 26, comment ça va se passer? Et Kelly, tu sais qu'on a juste essayé pour faire la répartition des entités. Vous avez vu qu'il y a déjà des conflits à ces niveaux-là. Il y a des gens qui se retrouvent dans telle province, quand on dit c'est dans telle, ils ne veulent pas. Ça crée déjà des conflits. On s'est dit, nous sommes d'accord, mais il faut prendre le temps qu'il faut pour mettre ces systèmes en place.
Jeff Mingam, vous êtes éditeur du journal fédéral, vous intervenez à partir du Katanga. Dites-nous, est-ce que la décentralisation signifie pour vous la réplique à la source des 40% parce que le Katanga veut à tout prix avoir sa réplique des 40%?
Non, écoutez, la décentralisation ne signifie pas seulement le 40%. Quand nous revenons à la Constitution elle-même, dans son exposé des motifs, on donne les raisons de la décentralisation. J'en relève deux. Pas d'une manière exhaustive, créer des centres d'impulsion et de développement à la base. Deuxièmement, je relève exercer les compétences de proximité. Je me limite là-bas, madame. Vous voyez qu'avec ça, il ne veut pas dire nécessairement qu'on doit se limiter au niveau de 40%. Mais il se fait malheureusement que les Congolais veulent souvent une chose et son contraire. On a beau réclamer la décentralisation, mais aujourd'hui, quand il arrive le moment de pouvoir l'appliquer, on commence à tourner casaque. Ça, ce n'est pas aussi correct. Ça devient de la malhonnêteté. Tout en n'étant pas d'accord avec les amis qui venaient d'intervenir, vous allez voir, pour le cas du Katanga, par exemple, peut-être le président du Katanga est resté plus sur l'aspect des 40%. Bon, ça l'engage, mais nous voyons les choses autrement. Vous allez voir le cas du Katanga. Le Katanga, par essence, est une province fédéraliste. Et il n'y a pas que le Katanga. Nous l'avons vu au cours de l'histoire, depuis le Luabourg jusqu'à la conférence nationale souveraine. En tout cas, plus de 70% de la population congolaise a estimé que le Congo étant très vaste, il y fallait vraiment un autre mode de gestion. L'unitarisme a échoué. Et le constituant a estimé que non, pour ne pas donner vite au Congo le fédéralisme, le système fédéraliste, il fallait peut-être y aller par palier en commençant par le découpage et la décentralisation. Mais il est curieux aujourd'hui que les gens disent encore que c'est trop tôt. Moi, je pense que refuser la décentralisation aujourd'hui serait un problème, ça relève des manques de volonté. C'est aussi un problème de la recherche de la loi du moindre effort. Il faudrait que les Congolais apprennent à être esclaves de leurs engagements. Si le Katanga réclame les 40%, là, il faudrait aussi comprendre. Le Katanga, dans son ensemble, estime qu'il y a de l'injustice.
Apparemment, Gustave n'est pas d'accord avec vous. Gustave, rapidement, on va passer au deuxième thème.
Je voudrais seulement rappeler à mon confrère qui est à Lubumbashi que le problème de la décentralisation aujourd'hui n'est pas opportune par rapport à la culture. La culture qui est la nôtre. Il a bien dit qu'il n'y a que deux provinces, déjà à la conférence nationale souveraine, la province du Bas-Congo et la province du Katanga, qui ont toujours réclamé leur autonomie. Mais moi, je prends seulement la province du Bas-Congo. Aujourd'hui, le Bas-Congo, prenez le port de Matadi. Aujourd'hui, c'est ce port qui est propriétaire de l'ONATRA, qui donne beaucoup de moyens à cette entreprise publique. Mais on vous apprend que les agents du Bas-Congo, de l'ONATRA, du port de Matadi, refusent que les recettes générées par ce port puissent être distribuées dans d'autres centres de l'ONATRA, et comme à la direction générale de Kinshasa. Les gens refusent au nom de l'autonomie, au nom de ce qu'on appelle la décentralisation. Mais écoute, Kelly, si aujourd'hui on arrive à mettre le pont à l'eau profonde, on met le pont entre Kinshasa et Bas-Congo, si aujourd'hui on arrive à mettre à construire le pont à l'eau profonde, je voudrais que les gens du Bas-Congo me disent ce que sera le port de Matadi, ce que sera le port de Boma. Donc automatiquement, les recettes que ce port pouvait avoir vont disparaître parce que les gens chercheront à aller dans le port de Pointe-Noire, les gens chercheront à aller à l'hôpital. Aujourd'hui, les Kassaïens estiment qu'ils ne peuvent plus commander leurs marchandises par le Katanga parce que toutes les recettes qui devront entrer au gouvernorat du Kassaï oriental, ces recettes restent au Katanga. Ils estiment qu'ils peuvent négocier avec les Angolais et faire une route à travers de Tsikapa et l'Obito. Et vous comprendrez que la plupart des commerçants kassaïens chercheront à ce que leur province et des recettes à travers cette route. Et moi, mon conseil qui est à Lubumbashi, je vous donne le poser sur la dernière question pour dire qu'est-ce qu'il peut me dire du conflit qui existe entre sur la notion de la route, Solwezi, Kolwezi. Et parce que les amis estiment que cette route va donner beaucoup d'argent dans la province du sud Katanga qui sera créé. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir les autres provinces, le nord Katanga et par exemple le Tanganyika? Donc je crois que jusque-là, moi, cher Kelly, le problème de la centralisation, il faut qu'il y ait des préalables. Il faut que l'État étudie normalement, il faut que la population s'implique dans une prise de conscience pour qu'on ne transforme pas la décentralisation en une sorte de séparatisme.
Merci Gustave. Claudine Mbombo, vous ne pensez pas qu'il faudrait une certaine sensibilisation de la population parce que on a l'impression que les gens confondent un peu ce mot décentralisation à autonomie, république 40%.
Justement, c'est là d'ailleurs le point de départ. Il faut d'abord vulgariser les textes et faire la sensibilisation. C'est vrai qu'on a un sérieux problème d'absence de leadership local et qui devrait vraiment gérer cette décentralisation-là. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des préalables. Et parmi ces... Très peu de gens maîtrisent les contenus de la loi sur la décentralisation. Tout est limité à 40%. Et au nom de ces 40%, chacun cherche ses intérêts. Et en ce moment-là, je pense que nous, si nous commettons l'erreur d'appliquer cette loi en ce moment-ci, les conséquences seront graves.
Jeff Mingamba, pour vous, cette décentralisation doit s'appliquer maintenant.
Oui, en tout cas pour nous, pour tous les Katanga tels que l'opinion circule ici, la décentralisation doit s'appliquer. Je répète encore, il ne faudrait pas
rapidement
qu'on se cramponne à l'aspect 40%. Il ne faudrait pas qu'on se cramponne à ça. D'ailleurs,
et puisque c'est le Katanga lui-même qui se cramponne à ces 40%, justement. Je dis parce que c'est le Katanga qui se cramponne à ses 40%.
Non, c'est un des aspects que le Katanga constate qu'il y a des lésions.
Non, parce que hier, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga a dit sous nos antennes, la décentralisation, le processus peut prendre le temps qu'il peut, mais le problème du Katanga, c'est la retenue.
Non, on peut commencer par là, c'est pas grave, mais mon problème à moi, c'est que je voudrais signifier à Gustave ceci. Les recettes du Katanga ne sont pas seulement les recettes de douanières, parce qu'il dit qu'il y a des marchandises qui doivent passer pour aller vers les Katanga. Ça, nous sommes tout à fait conscients et d'accord avec lui. Mais aussi, il faudrait savoir que les recettes du Katanga ne proviennent pas seulement de l'unique voie de Kasumbalesa. Vous-même, vous avez dit, on pensait même ouvrir la voie des Solwezi. Ça, c'est un autre thème peut-être, on pourra y revenir si vous voulez. Mais les problèmes c'est qu'il faut qu'il y ait la culture du respect des textes. Parce que les Congolais, pourquoi on a dit que l'application devait intervenir dans 36 mois? Mais là, on a fait plus de 2 ans, on n'a pas préparé la population, et quand on s'approche vers l'échéance de l'application de cette disposition, on commence à dire non, il n'est pas possible, ce n'est pas prêt. Non, là, c'est vrai que nous trouvons que ce n'est pas correct. Moi, je pense qu'il fallait d'abord qu'on aille, qu'on démarre, et que nous allons évaluer, nous verrons si cela n'est pas bon. À ce moment-là, ce n'est pas, ça ne sera pas mal de pouvoir arrêter. Mais arrêter quelque chose sans avoir l'appliqué, nous pensons que ce n'est pas correct. Donc, la disposition constitutionnelle doit être appliquée et ça ne doit pas tenir compte des sentiments ou des volontés des individus. Nous devons nous en tenir tous à la loi mère qui est la Constitution. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects.
On vous a compris, Jeff. On va passer directement à notre deuxième thème, tripartite RDC Ouganda, République centrafricaine. Une réunion des chefs d'état-major généraux des forces armées de ces trois pays se sont réunis hier, jeudi, à Kisangani, en province orientale. But de cette réunion, c'est pencher sur la situation sécuritaire dans la partie nord-est du Congo, en provoque d'action des rebelles ougandais de la LRA. Des experts militaires chargés des opérations et ceux des services de renseignement des trois pays ont passé à peine fin la situation des LRA dans la partie nord-est de la RDC, même si les participants affirment que ces opérations actuelles contre la LRA ont connu un succès. Ils reconnaissent cependant la nécessité d'améliorer leur système d'échange des renseignements en vue de neutraliser complètement les rebelles ougandais. Les trois parties ont aussi proclamé leur volonté à faire de la protection de la population civile une priorité. Le porte-parole des FARDC, le colonel Léon Kasonga, dit dans un communiqué final qui a sanctionné cette rencontre. Il est au micro d'Aliena Alipanagama.
La LRA est en débandade. Ses effectifs sont réduits. Son opérationnalité est au niveau le plus bas. Ses activités actuelles se localisent essentiellement à la frontière commune RDC, Sud-Soudan, Centrafrique. La coopération dans l'échange de renseignements entre les armées de la RDC, de la RCA de l'Ouganda et du Sud-Soudan devrait être améliorée en vue de neutraliser définitivement la LRA. La protection de la population civile demeure une priorité absolue. Et les nouvelles mesures d'accompagnement sont en cours d'élaboration.
Il faut signaler que ces échanges et discussions se sont déroulés en présence du commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gueye. Claudine Bombo, entendre le porte-parole militaire, l'opération RDC Ouganda était un succès. Est-ce qu'on peut parler vraiment de succès lorsque la LRA continue à attaquer des villages et procéder même à des enlèvements?
Je m'excuse beaucoup. Et je pense que les amis de l'Est, quand ils attendent des tels discours, ils sont déçus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix à l'Est, Kiri. Il n'y a pas la paix. On dit que les opérations ont réussi. Ils ont réussi à quel niveau? Parce que nous, les indicateurs de cette réussite, de toutes ces opérations, c'est la paix. Si nous pouvons attendre d'ici 100 jours, nous dire qu'il n'y a aucun village qui a été attaqué dans la province orientale ou dans le Kivu, là nous pouvons parler de la réussite. Mais là, tous les chefs d'état-major se sont retrouvés. Moi, je pense que le problème de l'Est, c'est un problème politique. Et ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement de tous ces pays qui doivent se réunir pour trouver la solution et parler un franc langage.
Mais ils se sont déjà réunis, non? À ma connaissance.
Ils se sont réunis, mais ils n'ont jamais été francs entre eux. Chaque jour, songez quand ils se retrouvent. Les chefs d'état-major, ce sont des exécutants. Quand ils rentrent chez eux, s'il vous plaît, chacun fait rapport à son président. Mais quand le président se retrouve, il ne parle pas franc. Il ne joue pas franc. C'est ça les grands problèmes qu'il faut résoudre à l'Est. Mais ça ne sert à rien de multiplier les réunions avec les experts politiques, les experts militaires plutôt. Je pense que le problème est ailleurs. Et en ce qui concerne la RDC, je pense que si on arrive à bien payer nos militaires, si on arrive à bien traiter la police, si on arrive à réorganiser le service des renseignements, nous pensons que nous-mêmes, à notre niveau, nous pouvons mettre fin à cette insécurité sans recourir aux pays voisins.
Gustave Kalinga, vous êtes d'accord avec Claudine quand elle dit qu'il faut bien payer nos militaires, nos policiers pour mettre fin à cette insécurité à l'est de notre pays? Là, je parle de la LRA.
Mais Bombo vient de le dire. Mais regarde seulement. Moi, je voudrais commencer par l'insécurité dans la vidéo qui dit ça. Regarde. Elle a bien dit, si nos militaires sont bien payés, je crois qu'ils vont bien sécuriser les biens et les personnes dans cette ville. Je prends un petit exemple. L'action, l'agitation de nos polices de roulage, ça démontre l'insécurité permanente et accrue que vivent les automobilistes. Maintenant, revenons à la question des LRA. Je viens de suivre le communiqué de mon grand frère aîné dans la profession, Léon Kassonga, qui est le porte-parole des forces armées congolaises. Vraiment, je le respecte beaucoup. C'était un communiqué purement politique et diplomatique, mais il sait très bien qu'à l'Est, les femmes sont violées, les enfants meurent, il y a l'insécurité totale. Aujourd'hui, on nous parle de qu'il y a un et qu'il y a deux, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous suivi ce que Museveni a dit, le président ougandais. Le président ougandais a dit, ce que fait le LRA, c'est une affaire purement congolaise. Ça n'engage que les Congolais.
Et qu'est-ce que la RDC doit faire?
La RDC, je vous ai dit la fois passée qu'il y a un problème réel de leadership, de responsabilité. Donc là, le gouvernement congolais, et c'est là où moi je demande au Premier ministre Mouzito, qu'il est incapable, d'avoir une mainmise sur notre armée, sur la défense nationale, et mettre hors d'état de nuit.
C'est pour son langage que vous
dites. Langage de moi, parce que lui doit, c'est lui le chef de l'exécutif, c'est lui le chef du gouvernement, le ministre de la Défense dépend de lui. Mais qu'est-ce qu'il attend pour donner, comme l'a dit ma consoeur Mbombo, les moyens suffisants aux militaires congolais pour qu'ils aillent mettre fin à ce qui se passe à l'Est?
Et entre-temps, c'est la population civile
qui est victime. Moi, je crois que le gouvernement aujourd'hui doit se garder en face et prendre une décision finale.
Merci, Gustave. Jeff Mingam, vous intervenez à partir du Katanga. Vous pensez qu'il est important ou opportun de reprendre l'opération RDC Ouganda pour anéantir complètement ce rebelle LRA qui insécurise la partie nord-est du pays, c'est-à-dire la province orientale?
Mais en fait, oui, madame. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de fait, comme les amis le disent, et je suis très content de leurs analyses, tant qu'il n'y a pas de fait, tant qu'il n'y a aucun indicateur de paix, moi je pense qu'il faut continuer. Mais peut-être c'est un problème de voir quelle manière maintenant de s'y prendre. Vous savez, la déclaration, le rapport qui venait d'être fait là, ne relève que de la propagande. Il n'y a rien, les amis qui sont là nous appellent et nous disent, il n'y a pas de paix, mais nous la prenons chaque jour. Bon, peut-être c'est une justification pour ceux-là qui dépensent de l'argent, de faire voir qu'ils sont en train de travailler, mais en réalité, il n'y a rien qui s'est fait, ce n'est pas un succès. On ne peut pas parler d'un succès quand, au même moment, ils se contredisent dans le rapport, ils disent que non, leur opérationnalité se limite à la frontière. C'est-à-dire qu'ils sont encore là. Nous attendions entendre dire que nous les avons tous anéantis, maintenant il n'y a plus d'un des membres de LRA. Mais tant qu'ils sont encore là, et tant qu'ils continuent à violer, à enlever, tant qu'ils continuent à tuer, donc il n'y a pas de paix. Donc l'opération peut continuer, mais il faudrait que l'État congolais prenne ses responsabilités. Ça, c'est de la faiblesse de l'État congolais.
Mais il faut quand même, s'il te plaît, Jeff, il faut quand même reconnaître les efforts que le gouvernement fournit quand même pour mettre fin à cette situation de la LRA. Ils étaient en grand nombre, mais maintenant, d'après le porte-parole des FARDC, c'est un petit nombre de LRA qui insécurisent cette partie du pays.
Oui, les efforts sont fournis, mais à une certaine proportion. Ces efforts-là doivent arriver jusqu'au bout. Quand on dit que ce n'est pas encore fini, donc ces efforts, on ne peut pas parler non plus aussi de succès. Il y a des efforts, bien sûr, on n'en disconvient pas, mais il n'y a pas non plus succès. Il faudrait qu'on arrive au bout, parce que pour nous, nous entendons succès en tant que citoyens, en tant que population, il faut qu'il y ait la paix. Il ne faudrait pas que nos mamans, nos soeurs soient violées chaque jour, que les cases de nos frères soient toujours brûlées, qu'on dise qu'il y a succès. Non, il n'y a pas succès. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. À ce moment-là, nous dirons oui, notre armée a fait son effort. Le gouvernement a travaillé et on est arrivé au bout. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de faiblesses et il y a un problème de tactique, il y a un problème d'approche. Il faudrait le voir, surtout du côté congolais, parce que les autres, là, peut-être ils ne trouvent pas un intérêt.
tout se passe sur le territoire congolais. Donc les Congolais doivent prendre plus de responsabilités que l'Ouganda et la République centrafricaine.
Merci beaucoup, Jeff. Le dernier terme de notre débat, c'est cette crise qui règne au sein du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Azarias Ouvéroi, président du RCD, désavoue en qualité de président de ce parti. Dans une déclaration politique rendue publique samedi dernier à Kinshasa, 15 membres du collège de fondateurs du RCD ont décidé de démettre leur président de son poste. Azarias Ouvéroi est accusé par ces derniers, notamment de concentrer tout le pouvoir autour de sa personne, de mauvaise gestion des ressources humaines, matérielles et financières du parti, de l'immobilisme dans l'animation des fédérations et d'incapacité de gérer politiquement la période post-électorale. Les 15 membres signataires de cette déclaration ont du coup mis sur pied un comité de crise présidé par Trésor Kapoukou, chargé notamment de la gestion quotidienne du parti. Pour Azarias Ouvéroi, cette décision, qui n'émane pas du trois quarts des 40 membres que compte le collège des fondateurs du RCD, viole le statut du parti. Par conséquent, elle n'a aucun effet. On l'écoute.
Nous comprenons que c'est fatal. Il y a la division du parti, les élections en particulier. Et donc, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir. Si c'est le prix à payer pour avoir l'unité du parti. Maintenant, si les gens ne comprennent pas ça, ou prennent ça pour un acte de faiblesse, le moment venu, nous serons amenés à décider des sanctions qui sont prévues dans les mêmes statuts. Elles partent des blâmes jusqu'à l'exclusion. Mais nous avons voulu faire un appel à la raison pour que les gens comprennent que nous sommes forts quand nous sommes ensemble. La fragilisation, elle a été le week-end. Mais nous pensons travailler et réussir. Là où les gens pensaient que ça n'était fini avec le SD.
Trois jours après cette déclaration, 18 autres membres du collège des fondateurs disent renouveler leur confiance à Azarias Ouvéroi. Ils ont invité leurs collègues à revenir à la raison. Pour Azarias Ouvéroi, il y a tout intérêt à se mettre ensemble pour l'intérêt du parti en cette période électorale. Mais pour sa part, Adolphe Onosumba, l'un de ceux qui ont désavoué le président, estime que c'est plutôt Azarias Ouvéroi qui doit revenir à la raison. Alors, Gustave Kalinga, finalement, qui de deux groupes doit revenir à la raison?
En fait, tous deux n'ont pas de raison. C'est une affaire interne. La population croyait que le RCD, soit ceux qui sont restés, soit ceux qui sont partis, allaient faire une grande déclaration pour s'impliquer dans la dynamique de l'opposition, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais curieusement, l'opposition constate que les deux groupes, tous sont des kabilistes. C'est une guerre de repositionnement. Au moment où on vient d'annoncer un remaniement et avec l'arrivée aussi de nos frères du CNDP. Donc ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui ont chassé Ouvéroi estiment que Ouvéroi ne joue pas un franc jeu et par conséquent, ils doivent, eux, trouver l'occasion de négocier directement avec l'AMP ou bien avec le peuple président de la République, qui est le président de la majorité présidentielle. Ils ne veulent pas que Ouvéroi puisse être leur interlocuteur auprès de leur famille politique, qui est l'AMP. Mais c'est que Ouvéroi aussi refuse. C'est-à-dire quoi? Ouvéroi a joué le jeu de l'AMP, lequel jeu n'a pas été adopté par ses pairs.
C'est-à-dire quoi, il a joué le jeu de l'AMP?
Mais comme toujours, Ouvéroi, qu'on le veuille ou non, le RCD, c'est le prolongement de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est l'actuelle forme aujourd'hui qui est le PPRD. Donc, Ouvéroi a gardé son silence, Ouvéroi a joué ce jeu, c'est tout à fait normal.
Donc, le RCD est allié à l'AMP?
Mais bien sûr, comment voulez-vous, quand on a partagé les entreprises publiques et d'autres structures de l'État, on a vu les ténors du RCD, comme les Seoufouli, qui sont le président du conseil d'administration de la SNEL et d'autres membres. Donc, quelque part, on a vu que nos amis du RCD jouaient le jeu de la majorité, mais de manière silencieuse. Mais cette fois-ci, ils veulent maintenant jouer ce jeu de manière explicite. Mais c'est ce qui crée un peu de dissension entre eux. Il y a ceux-là qui veulent négocier directement avec le président de l'AMP, mais sans passer par Ouvéroi. Mais Ouvéroi, lui, estime qu'il reste la plaque tournante. Donc, comment pourrais-je dire, il reste l'élément
fondamental par lequel les choses doivent passer. C'est ce qui crée un peu de friction. Mais Kelly, je voudrais terminer en disant, ça, ce sont des partis que nous avons connus sous la Deuxième République. Vous vous souviendrez, à l'UCRI, on a créé une dissension, on a créé l'UCRI Kishu Maya, on a créé l'UCRI Ngozi Kalibonda avec son épouse, on a créé l'UCRI de Kingwa Kumanza. Vous vous souviendrez, on a créé le PDC de Kamitatu Masamba, on a créé le PDC des autres, mais tout ça, ce sont toujours des tactiques du pouvoir, du parti au pouvoir, qui essaient de déstabiliser et faire un débauchage classique et aligner ses membres. Je crois que c'est là où nos amis du RCD vont aboutir.
Alors ça, c'est votre analyse de cette crise au sein du RCD. Merci Gustave Kalenga. Claudine Bombo, vous, comment vous comprenez cette crise au sein du RCD?
Quand j'ai appris la nouvelle, ça n'a pas été une surprise pour moi. Parce que dans ces
Donc, il fallait s'attendre à ça.
Il fallait s'attendre à ça un jour. Quand on s'approche souvent des remaniements, il y a toujours des crises au sein des partis politiques. Et ça, nous avons déjà compris que les gens cherchent à se positionner. Parce que s'ils doivent recourir derrière leur président, les autres ne seront peut-être pas satisfaits. Quand il s'est dit, si je veux négocier directement avec l'AMP, je peux trouver un poste que si je passe par mon président, il préfère aller ailleurs. Ça repose toujours le problème de l'idéal. On n'a pas d'homme politique idéal dans ces pays. On n'en a pas jusque-là, je m'excuse. On n'en a pas. Et vous savez que le CNDP, c'est une sorte de dissidence du RCD. Quand ils étaient à l'Est, ils se plaignaient du fait que M. Azarias Rouberoy n'a pas respecté les contrats qu'ils ont signés avec eux. Il n'a pas respecté les promesses. Aujourd'hui que le CNDP veut négocier directement avec les présidents, vous sentez qu'il y a une crise au sein du RCD. Et ce n'est pas une surprise pour les analystes politiques.
Merci Claudine. Jeff Mingambe, éditeur du journal Le Fédéral, vous intervenez à partir du Katanga. Vous, comment entrevoyez-vous l'avenir du RCD avec cette crise?
Comme je vous ai dit d'entrée de jeu déjà, madame, au Katanga, cette histoire du RCD n'a pas d'éclat vraiment. Vous savez, le RCD lui-même est très mal implanté au Katanga, ce qui fait que les gens se sont intéressés moins, mais à moins que nous analystes, quand même, on a essayé de nous intéresser. Comme disait tout à l'heure Mbombo, la classe politique congolaise n'a pas de moralité, et ça c'est vraiment une réalité. Chaque fois que nous nous approchons à un remaniement, ce sont des dissensions au sein des partis politiques pour la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Ça s'appelle tout simplement le théâtre de chez nous. Parce que déjà, nous entendons dire que c'est lui qui a remplacé CNC Kapoukou, si j'ai bon mémoire. Oui, bon, il y a déjà des sources qui indiquent que Kapoukou est le beau-frère à Rouberoy. Vous voyez que, donc, si le beau-frère à Rouberoy, donc, c'est chou, vers chou, donc, c'est du théâtre de chez nous. Et nos amis aussi, dans leur déclaration, on a senti qu'il n'y avait pas assez de convictions, les 15 là. On a senti. L'homme là qui parlait, c'est comment encore, je ne sais pas si bien le nom. On a senti qu'il n'y a pas assez de convictions. Donc, comme pour vous dire que ni l'un ou l'autre groupe n'a pas raison. Donc, c'est leur cuisine interne. Ils savent eux-mêmes où ils veulent en aboutir. Mais si cela est vrai, moi je dirais que qui tue par l'épée périt par l'épée. Rouberoy lui-même, il sait comment il est passé président du RCD, et en remplacement de Émile Ilunga. C'était toujours à l'approche d'un événement. C'était, je pense, l'événement du dialogue intercongolais. Bon, voilà aujourd'hui. Bon, il ne peut qu'à s'attendre à ce que lui aussi avait déjà fait. C'est ça la réalité, madame.
Merci,
donc, c'est de la pure surenchère politique à l'approche d'un événement, d'un changement qui voudrait intervenir au pays. Voilà comment le Katanga. L'opinion Katanga n'a pas accueilli avec beaucoup de chaleur cette situation du RCD.
Merci Jeff Mingam, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Dieudonné Nyangaza qui était à la technique et Guy Maté qui a réalisé pour vous cette émission. Nous n'oublions pas toute l'équipe de dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Hirung sous la coordination de Martin Sebujangwe. En leur nom, Kéline Kouté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Okapi. Thank you.
Thank you.